tutoyer, en fait, je veux savoir aussi.
Je vais tutoyer, ouais. Durant cet épisode-là. On se connaît quand même assez bien, là, tutoyer, mais bienvenue au Brunch Politique, Guillaume.
Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être ici, là, depuis le temps que j'en parle puis que j'écoute vos émissions. Là.
Ça fait toujours plaisir d'être chez Paul.
Ouais. Dans le studio, le salon. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Mais non, je suis vraiment content de te recevoir. D'ailleurs, pour parler d'un sujet qu'on a déjà traité dans cette émission-là, mais il y a quand même longtemps. Puis c'est un sujet qui reste quand même d'actualité. On va parler de la crise du logement. Mm-hmm. Puis on va se donner un peu un angle plus régional. Tu sais, d'ailleurs, si on va dire... Je vais utiliser le terme région. Je ne sais pas s'il y a un meilleur terme, parce que des fois, on dirait que les gens... sens péjoratif à ça, mais...
Non, c'est le bon terme. On parle pas, mettons, de la grande ville de Montréal, mais Sherbrooke, tu sais, ça peut être quand même des grandes villes. Je pense que Sherbrooke a 150 000 personnes, mais mettons, c'est les villes, mettons, en région. Là,
On sort de Québec-Montréal.
On sort de Québec-Montréal. Tout ce qui est hors de Québec-Montréal.
Ouais, exactement.
De toute façon, on les aime pas, ces villes-là. Anyway.
Ah, dites pas ça, là. Vous qui êtes un enfant de la... D'ailleurs, toi aussi, Guillaume, t'es pas,
moi,
pas de Montréal.
Moi, je suis un petit gars de Saint-Lazare, ouais. J'ai grandi. Okay, ce qui est la ville voisine de Vaudreuil-Dorion à l'ouest de l'île de Montréal.
J'ai grandi là.
Pour vrai?
Oui.
Tu sais jamais côtoyé. T'es allé à l'école au Clair ou...
Non, je suis allé à Soulanges.
T'es allé à Soulanges? Et boy.
Ouais.
Les grandes rencontres au Brunch Politique.
On a essayé assez le monde. Non,
les grandes rencontres au Brunch Politique aujourd'hui. Oh, okay. Mais avant de se lancer dans le sujet, il y a la question la plus importante de l'épisode.
Oui.
C'est la question à déjeuner. Et j'ai une question parce que tu m'as dit que tu étais un fan de déjeuner déjà.
Oui, 100%.
Puis, puis la question, est-ce que t'es... En même temps, tu vas au resto. Est-ce que t'es plus style diner, petit resto à déjeuner ou plus comme fancy avec des gros menus puis des cafés à plus finir?
De Saint-Lazare, je vais répondre pour lui. Fancy.
Ouf! Mais moi, je suis pas représentatif de la clientèle, je pense, de Saint-Lazare, par contre. Mais j'irais avec... C'est le petit diner du coin. Moi, je suis vraiment pas le... J'essaie des fois des restos un peu plus fancy qui sont très bons d'ailleurs souvent aussi, mais... J'aime ça. D'ailleurs, j'adore ça, tester les restaurants cheap, genre déjeuner. Genre tout ce qui a l'air un peu plus cheap possible.
Ouais, ouais.
Les classiques. Je prends toujours le classique 2 œufs bacon, puis j'adore ça parce que t'as des prix des fois excellents, mais le déjeuner reste totalement bon aussi. Là, fait que ouais.
Petit diner.
Un petit diner, oui.
Et vous, Yvon, est-ce que vous êtes...
Moi aussi, je suis de ce genre-là. Un petit resto. Je suis pas du genre à prendre un venti le matin. Là. Moi, c'est un café noir bien ordinaire. Là.
Mais moi, autant je suis très café-filtre dans un restaurant à déjeuner, parce que comme le refill à l'infini, là. Cela dit, je dois dire que... Mais moi, c'est ça, je suis végétarien, donc j'ai moins de choix là, dans ces restos-là à déjeuner. Je me finis à manger des patates avec des œufs. Mais je suis plus resto fancy. Mais oui, je comprends le charme, donc c'est dans les restos... petits restos de quartier qui sont avec les habitués qui reviennent tout le temps. Il y a un charme là-dedans. Mais avant de... On va aussi... je vais te demander de te présenter, Guillaume. Comment, si les gens ne te connaissent pas, que fais-tu dans la vie?
Hey, ça va faire plaisir. D'abord, je vais vous parler un peu de mes études. J'ai fait mon bac en communication et politique à l'Université de Montréal. Je sais que c'est autour de la table, plus l'UQAM. Je n'ai pas créé de chicane, mais... Puis j'ai fait mon certificat ensuite à l'Université de Montréal aussi. J'avais entendu dire que c'était beaucoup plus pratique, le certificat en journalisme, que parce que tu peux faire le DESS aussi, le diplôme d'études supérieures. Mm-hmm. L'équivalent de maîtrise, puis c'est ça, j'ai fait ça pendant un an, puis c'est vrai que c'était quand même assez pratique.
Ouais.
Mais si c'était à recommencer, sachant que j'allais après ça aller en journaliste, j'aurais peut-être fait le bac en journalisme à l'UQAM.
Ouais.
Qu'il est très, très bon aussi.
Il est très réputé aussi.
Très réputé, oui. Puis après ça, dès que j'ai fini mes études, j'ai commencé en journaliste avec le Journal des voisins, qui est le journal communautaire d'Antique-Cartier-Ville.
OK.
Puis j'ai fait un stage là-bas pendant quelques mois. Avant de déménager, là je vais me promener pas mal. C'est toute une expédition, là, mais j'étais allé au Nouveau-Brunswick à Caraquet, dans la péninsule acadienne. J'ai travaillé là pendant 6 mois comme journaliste écrit.
Journalisme en français pour la...
Oui, l'Acadie Nouvelle, qui est comme le principal journal francophone du Nouveau-Brunswick, puis même... tout c'est ça, de l'Est du Canada.
D'ailleurs, sais que j'ai déjà demandé cette question-là, puis je la redemande toujours, j'oublie. Mais toi, est-ce que tu as un CIR d'origine acadienne?
Oui, mes grands-parents sont nés à Edmundston, au Nouveau-Brunswick.
Okay.
Puis ils ont grandi là-bas, mais ils ont déménagé au Québec. Là, pendant... Mon père est né au Québec, en fait. Okay. Fait que c'est vraiment familial, mais je suis allé souvent au Nouveau-Brunswick, mais plus pour des réunions familiales. Ouais.
Mais c'est comme un retour aux sources.
Un retour aux sources, on disait ça souvent avec ma famille. Là. Oh, je vais retourner... J'ai mis dans mes racines, mais ouais, c'était vraiment le fun.
Ah.
Moi, je suis quand même curieux. Le journal que tu parlais là, du Nouveau-Brunswick, c'est titré à combien par Mettons, il y a combien d'exemplaires de ce journal-là? Par jour ou par semaine?
Par jour, quand même beaucoup. Je pense qu'il arrêtait d'imprimer le dimanche maintenant, si je me souviens bien. Mais sinon, c'était quand même... Je veux pas me tromper, je veux pas dire un mauvais chiffre, mais je sais que c'était dans les centaines de milliers d'exemplaires.
Ouais, quand même. C'était quand même beaucoup. Un grand journal.
C'était quand même... Ouais, c'est vraiment le plus grand journal francophone à l'extérieur même du Québec. Okay. Partout au Canada, là. Fait que... Ouais, non, c'était un gros journal. Puis là, après ça, je suis revenu au Québec parce que j'avais envie de revenir ici. Puis j'ai travaillé pendant quelques mois pour le journal local à Vaudreuil-Dorion, d'où ce que je viens. Viva Média. Okay. Et après ça, je suis tombé au 24 heures. Ça fait 3 ans maintenant.
Le 24 heures de Montréal.
Le 24 heures de Montréal, oui. Un peu grâce à Paul, d'ailleurs, par contact interposé. Là,
c'est vrai que c'est moi qui t'avais dit, hey, il cherche quelqu'un, essaye-toi.
Ouais, c'est ça.
Bon, on se connaissait pas énormément.
Pas à ce moment-là, non, pas encore.
Mais oui, je suis très content de ça. Puis ça fait en sorte. Oui, ça, là, ça fait 3 ans que tu es au 24 heures.
Oui, exactement.
Tu es journaliste.
Journaliste écrit. J'ai commencé généraliste. Puis ben, même encore aujourd'hui, c'est mon titre, là, journaliste généraliste. Donc, je couvre à peu près tous les sujets. Mais j'ai une petite spécialité en logement depuis, je dirais, un an et demi. Mm-hmm. J'en faisais au début, mais c'était vraiment une fois de temps en temps. Puis là, je dirais que depuis un an, c'est quasiment mon beat quotidien.
Ah oui, c'est le principal dossier que tu suis tout le temps.
C'est mon dada, là, tu sais, avec la crise du logement. Puis je couvre... j'ai suivi la crise du logement, avec la crise du logement qui a pris de l'ampleur. Quand je suis rentré en 2019, on en parlait, mais pas tant que ça. T'sais, ça commençait, c'était surtout les comités logement. Mais après ça, là, j'ai de plus en plus que la crise a pris de l'ampleur, ben j'ai couvert le sujet de plus en plus, puis là, je fais ça quotidiennement. Là, ouais.
Puis comment c'est... est-ce que c'était tu avais un intérêt pour ça, ou tu t'es un peu... c'est un peu tombé comme un addon, t'as couvert une histoire, puis...
Ou même ton boss t'a dit « Hey, couvre ce sujet-là, sinon t'es renvoyé.
Ouais. » Sinon, c'est dehors. Pour vrai, j'avais en toute honnêteté aucun intérêt au départ.
Okay, ouais.
Je suis rentré au 24, puis tu sais, j'étais locataire, puis je connaissais un peu ça, mais je pense que même au départ, anciennement la régie du logement, là, ça a changé de nom pour le tribunal, je connaissais ça un peu, je connaissais un peu quelques principes, mais vraiment de base. Là, puis,
comme un peu n'importe qui.
Un peu n'importe qui, puis avec le temps, là, plus je couvrais ça, plus j'avais de l'intérêt, puis ça l'a juste grandi, puis c'est ça, j'ai jamais arrêté, mais pour vrai, au début, là, j'avais vraiment aucun intérêt. Là.
Puis t'as commencé à couvrir ça, puis après, t'es devenu un spécialiste.
Je suis devenu un peu spécialiste là, quand même en journalisme, là, c'est ça, je couvre pas mal tout ce qui est crise du logement, immobilier, je fais un peu d'itinérance aussi.
Okay.
Ben pour ceux aussi qui connaissent moins le 24 heures, c'est un média numérique qui fait beaucoup d'enjeux, genre tout ce qui est crise du logement. Ils ont une section urgence climat, tout ce qui est question de racisme aussi, là, discrimination. Donc, ouais.
Puis maintenant, là, tu l'as déjà utilisé, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord qu'on parle, parce que des fois, on dirait que c'est un terme qui fait débat. Oui, exactement, mais qu'on utilise le terme crise du logement, tu es d'accord avec ce terme-là?
Je dirais que ça dépend vraiment des points de vue de qui tu parles. Mais attends, je vais m'expliquer sur ce point-là. C'est sûr, ça dépend des intérêts que tu défends en société. Mais la majorité des acteurs s'entendent pour dire que oui, il y a une crise du logement. Les comités logement, eux, vont dire unanimement, le FRAPRU, le RECAL, tout ça, c'est les organismes nationaux là, de logement vont dire que oui. Et après ça, même la ministre de l'Habitation, André Laforêt, elle a reconnu que finalement, il y avait une crise du logement. Ben, elle a reconnu partiellement parce que elle reconnaît que c'est dans les villes où le taux d'inoccupation est en bas de 1%. Mais elle a reconnu, c'est ça, partiellement, qu'il y avait une crise du logement. Les associations de propriétaires, eux, reconnaissent encore pas à ce jour la crise du logement. Mais par contre, qu'est-ce qu'on entend par crise du logement? Ben, tu sais, une crise du logement, ça veut dire qu'il y a nécessairement un manque de logement. Et ce manque de logement-là amène d'autres problèmes. Puis, est-ce qu'il y a un manque de logement? Ça, c'est indéniable. Il y a vraiment un manque de logement.
Mais justement, tu disais le taux d'inoccupation, c'est de 1%, c'est impressionnant. T'sais, il y a juste 1% de d'offres. Sinon, tu es occupé. Là,
ben, le taux d'inoccupation, peut-être juste faire une petite définition rapidement. Là, c'est quoi? Là, c'est établi par la SCHL, qui est la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
Okay.
Et dans le fond, le taux d'inoccupation, c'est attribué par ville, par municipalité ou par quartier à Montréal. Et ça détermine le nombre de logements disponibles dans une municipalité. Donc, quand on dit qu'il y a 0,5% de logements disponibles, mettons, à Drummondville, je lâche un chiffre au hasard, mais si, mettons, on dit qu'il y a 0,5% disponible, ben ça veut dire qu'il n'y a absolument rien pour les ménages. Là, ouais. Mais ouais, fait que si, mettons, on regarde ça d'un point de vue de manque d'habitation, de manque de logement, ça c'est indéniable. Il y a une crise du logement. Là. Donc, tout le monde s'entend là-dessus là, que l'offre est vraiment basse comparativement à la demande. Là. Fait que, ouais.
Donc, c'est bon, on va utiliser ce terme-là pour cet épisode.
Pour le reste de l'épisode.
C'est... Nous sommes en crise du logement.
Exact. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est souvent, on parle de crise du logement, mais souvent, on a toujours l'image un peu Montréal, ce qui est comme très problématique. Mais toi, t'as beaucoup parlé, tu as fait plusieurs articles sur la crise du logement en région. T'sais. Puis, qu'est-ce que tu dirais? Ben, d'un, est-ce qu'il y a une crise de logement en région? Oui. Mm-hmm. Oui, mm-hmm. Oui, tu dirais.
Ben, oui, oui. Puis, ben, c'est surtout qu'elle est différente un peu de celle de Montréal. Comme nous, c'était notre dernier dossier qu'on a fait sur le logement, c'était par rapport à ça. À Montréal, c'est surtout une crise du logement abordable. Dans le fond, il y a des logements souvent, il y a eu des constructions massives, sauf que ces logements-là sont pas très accessibles pour la classe moyenne ou c'est ça, les familles, c'est ça qui a un revenu moyen. Mais en région, et vu qu'étant donné qu'il y a eu énormément de déplacements en banlieue, dans les villes pendant la pandémie, ça fait qu'en ce moment, il n'y a plus beaucoup de logements. Il n'y a tout simplement pas de logements, puis il n'y a pas eu de construction aussi pour... Okay. C'est s'assurer là, une offre de logement. Donc, en ce moment, ce que ça fait, c'est que les taux d'inoccupation, je peux sortir quelques chiffres. Là.
Ouais.
Tu sais, le premier trio, je dirais, entre guillemets, du manque de logement, c'est vraiment Granby qui a un taux d'inoccupation de 0,1%.
Et 0,1%, ils ont juste pas de logement. Là,
eux, tout c'est qu'ils ont.
Ils aller au zoo, c'est pour ça.
C'est de le zoo est devenu populaire après la pandémie. Mais. 0,1%, là, dites-vous, là, c'est comme si, j'attends un enfant. Là, mettons, avec ma blonde, j'attends un enfant. J'ai juste besoin d'un plus grand logement parce qu'on veut une chambre pour le bébé. Bonne chance, Marketplace, tous les sites comme Kijiji, les sites pour chercher un logement, là, c'est la folie furieuse. Là. C'est vraiment intense. Mais sinon aussi, pour voir, en fait, les pires taux d'inoccupation, c'est toutes des villes de région. Après ça, c'est Drummondville à 0,2, Rimouski à 0,2, les Îles-de-la-Madeleine à 0,3, Rouyn-Noranda aussi à 0,3. Donc, tu sais, on voit vraiment que c'est des villes en région. À Montréal, juste pour vous montrer un exemple, c'est 2,5%.
OK, quand même. Donc,
c'est quand même élevé.
C'est
pour ça que la ministre de l'Habitation, Mme André Laforêt, a dit qu'il n'y a pas de crise de logement, en fait, à Montréal parce qu'il y aurait suffisamment de logements. Il y aurait 2,5%. Le taux d'inoccupation est de 2,5%. Bon, c'est une façon de voir les choses. Là. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas une crise du logement. Il n'y a pas un manque de logement, mais il y a à tout le moins un manque de logement abordable. Fait que ouais, c'est ça.
Mais ça, c'est que la différence, comme tu dis, c'est par exemple, à Montréal, par exemple, c'est plus... un manque de logement accessible à un prix justement pour des gens qui font pas 150 000 par année, sans exagérer, mais en région, c'est juste qu'il n'y en a plus. Là. C'est comme tu as dit, le premier 0,1% pour Granby, c'est impressionnant, c'est vraiment, vraiment bas. Là.
Mais oui, c'est vraiment, vraiment très bas. Puis ça l'a vraiment descendu, en fait. Regardez, mettons, à Granby, je l'ai aussi, il était en 2016 à 3,1%. Donc, le seuil d'équilibre aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais le seuil d'équilibre où est-ce que tout va bien, c'est 3%. Okay. C'est quand s'il y aurait assez de, entre guillemets, de logements pour tout le monde, ça ne devrait pas être une difficulté de se trouver un logement, c'est quand il est établi à 3%. Mais c'est ça, il était en 2016 à 3,1%. Quand je disais à 0,2 pour Drummondville, il était à 2,8 avant 2016 aussi.
OK, donc c'est quand même dans comme 5 dernières années que ça profondément dérapé.
Ben oui, vraiment.
Est-ce que ça peut s'expliquer par le fait que la pandémie, les gens voulaient s'exiler en campagne pour avoir un petit jardin puis être loin du monde pour pas se faire infecter?
Ben, en bonne partie, oui. Souvent, ils vont mentionner que c'était une des causes, que justement, les gens, ils voulaient avoir plus d'espace parce qu'ils étaient en télétravail chez eux. Ils pouvaient pas vraiment... ils voulaient avoir un peu plus d'espace, ils voulaient avoir un terrain, une cour, donc les ménages s'exilaient en région. Mais c'est ça, il n'y a pas eu d'offre, il n'y a pas eu de construction pour combler cette demande-là. Donc là, on est rendu dans un peu un cercle vicieux, là, où en ce moment, le nombre de logements il est vraiment très, très, très bas comparativement à c'est ça, la demande.
Ouais. Mais justement, toi, dans ton travail, tu couvres cette crise-là, puis... tu as des exemples aussi de... Justement, tu as fait beaucoup de dossiers pour montrer des exemples, des conséquences sur les gens qui vivent ça. Là, mais qu'est-ce que... Admettons, je te demande une question assez large, là, mais selon toi, c'est quoi le visage de cette crise-là?
Le visage un peu...
C'est les gens, c'est quoi les exemples de cette crise-là?
Ah, oui.
Qu'est-ce que tu peux voir? Ça?
Ben, mettons, je peux parler d'un cas aussi comme avec Saint-Calix.
Allons-y.
Avec ce cas-là, en fait, j'ai fait un dossier il y a quelques mois, en fait, en mars dernier. C'est un cas assez particulier, un exemple cas, mais je pense qu'il y en a plusieurs villes au Québec qui sont touchées par le même phénomène. C'est une ville, en fait, pour mentionner, c'est où Saint-Calix? C'est un petit village, de une petite ville de 7000 habitants dans la Naudière à 1h30 de Montréal. Donc, c'est au nord de Montréal. Mm-hmm. Puis c'est un couple de propriétaires qui est débarqué dans la municipalité, oui. Qui s'appelle Karim Baraki et Isabelle Terrien. C'est quand même d'importants propriétaires, là, tenez-vous bien, ils ont quand même 3000 logements.
OK, quand même, c'est pas...
dans la région de...
Ils font pas juste louer en haut de chez eux.
Non, ils construisent énormément, ils ont de logements dans les Laurentides et la Naudière. Il y en a à Mirabel, Blainville, okay. aussi, Saint-Jérôme. Donc c'est ça, ils sont débarqués dans cette municipalité-là, puis ils ont flairé vraiment la bonne affaire, je peux dire ça comme ça, là, de construire massivement, parce que le taux d'inoccupation est à 0% à Saint-Calix. Donc, okay. il y avait vraiment une...
Il n'y avait pas de marché, en quelque sorte.
Il n'y avait pas de marché, c'est ça. Puis, eux sont arrivés, puis ils ont peut-être bien fait de ce côté-là, parce qu'ils ont comblé une offre. Il y avait une grande demande, fait que là, il y avait besoin d'une offre. Puis, eux construisent qu'exclusivement des 5,5 et des maisons de ville.
Donc, c'est quand, mettons, c'est quoi une maison de ville?
Une maison de ville, c'est comme une petite maison, 3 pièces environ, bigénérationnelle.
Okay. OK, parfait. Parfait pour des familles, en fait.
Parfait pour des familles, oui, avec un petit terrain en arrière. Et rapidement, en construisant, ils se sont ramassés, là, cette année, ils possédaient 102 logements sur 200 de la municipalité.
OK, carrément, ils contrôlaient 50% de la ville.
Du marché locatif, oui. Ouais, okay. C'est énorme, là, pour vrai, c'est un truc qu'on verrait. Nous, on connaît pas, ça c'est un exemple de quelque chose qu'on vit pas à Montréal, c'est que c'est presque impossible que quelqu'un possède à Montréal 50% du marché locatif, ou sinon, en tout cas, bonne chance, ça arrive, mais...
Je sais que, sans vouloir ouvrir une parenthèse, je sais que dans le marché qui est plus commercial, il y a certaines rues à Montréal qui sont détenus par des grands propriétaires. Oui. Je ne veux pas donner d'exemple parce que j'ai déjà un propriétaire qui est un propriétaire qui détient comme... Il détenait comme portion, admettons, 50% d'une rue commerciale qui est du commercial qui est différent. Là, mais oui, comme je dis, admettons à Montréal, de voir quelqu'un qui détient 50% du marché locatif, c'est... On peut s'imaginer que cette personne-là a plus de pouvoir que le maire, tu sais.
Ben oui, et après ça, c'est difficile de l'interdire parce que c'est du marché privé. Fait que tu peux pas interdire de construire. Puis tu veux que quelqu'un veut pas ait le capital pour construire. Tu sais, c'est pas n'importe qui peut construire autant. Fait que c'est peut-être pas une mauvaise chose en soi au départ. Mais après ça, c'est de la manière que ça a été amené.
Oui, parce que c'est ça. Là on a presque
un préambule.
Oui, c'est ça. On dirait qu'il arrive puis il vient sauver comme le monde, mais c'est pas ça.
Un peu en guillemets, le seigneur de la place.
Ouais, je suis quand même curieux de savoir où c'est qu'ils ont pris leur argent pour faire la moitié de la ville en logement, mais bon, ça, c'est un
en quelques histoire. Années. Ils ont commencé leur construction en 2017.
OK.
Puis je pense qu'ils construisent encore aujourd'hui. Fait que c'est difficile de... Là, c'est les chiffres que je vous ai donnés, c'était en mars dernier. Là, fait que peut-être que ça a encore augmenté. Mais c'est ça. Fait que là, ils ont construit, mettons, 102 logements dans quelques années. Puis ça va m'amener sur le terrain de la Clause F, en fait.
Oui, explique cette Clause F.
Parce que c'est ça, l'enjeu de toute cette histoire-là, c'est que lorsque la Clause F du bail est cochée, un propriétaire peut augmenter les loyers comme bon lui semble pour les 5 années suivant la construction d'un immeuble, du logement. Donc, comme là, vous voyez, lui, il est arrivé en 2017. Fait que depuis 5 ans, il peut augmenter les loyers comme il veut jusqu'à cette année. Là, on arrive probablement à la dernière année pour certains logements.
Comme il veut, c'est qu'admettons, exemple, il y a un loyer à 1 500$.
Oui.
Il peut le mettre à 2 000$.
Exactement.
Okay, okay. C'est une pas pire augmentation.
Mais c'est ça, c'est que, en fait, pour expliquer aussi comment fonctionne le mécanisme, je ne vais pas faire une trop grosse parenthèse là, d'augmentation de loyer. C'est que, mettons, habituellement, le propriétaire peut toujours augmenter comme il veut ton loyer, sauf qu'il a le droit de toujours refuser, de dire « Hey, wow, là, tu vas un petit peu trop loin. » En fait, le propriétaire a toujours besoin de justifier sa hausse. Ouais. De dire « Si, mettons, j'ai augmenté de 50$, ben c'est à cause des rénovations, c'est à cause de l'augmentation des taxes municipales. » Mais là, dans ce cas présent...
Oui, attends, avant que tu continues, justement, ça, on en parlait beaucoup à l'épisode qu'on a enregistré avec Marianne Daigle, qui était au tout début du brunch politique. Ouais. Si ça vous intéresse, allez voir ça, parce qu'on va plus en détail, puis là, on n'a pas nécessairement trop le temps. Là.
Oui, je l'avais écouté, puis c'est très, très bien expliqué. Là, je voulais juste faire une parenthèse avec la clause F, mais c'est ça, dans le cas de la clause F, dans aucun cas, tu peux refuser. Là. Fait que c'est
automatiquement... OK, donc là, il vient te voir, puis il dit « j'augmente », c'est ça, l'exemple, je te passe ton loyer de 1 500 à 2 000, puis tu peux rien faire.
Ou de 1 500 à 3 000.
Ou à 3 000, ou à 4 000. Ben,
il n'y a pas de limite.
La seule petite exception, c'est qu'il y a eu dans la jurisprudence, en fait, dans la loi, il y a eu des cas au tribunal administratif du logement, c'est que quand il y a eu un abus vraiment significatif et prouvé. Okay. C'est vraiment que, mettons, le propriétaire arrive, puis comme tu dis, il augmenterait de 5 000 $, puis là, tu vas le voir, puis tu dis, OK, mais qu'est-ce qui justifie une augmentation de 5 000 $ par année? Puis là, le juge risque de dire, ben, en tout cas, dans les cas que j'ai lus, il va dire, ben, c'est parce qu'il abuse de ce règlement-là, tu sais. Mais mettons, dans le cas de Saint-Calix, ce qui est arrivé, c'est que, ben, en tout cas, la dizaine de locataires à qui j'ai parlé, pour les 5,5, il a donné une augmentation de 200 $, puis pour les maisons de ville, c'était 300 $.
Sur combien, mettons?
Mettons
sur des augmentations de 200 $ ou 300 $.
C'est ça. Le 200 $, c'était le loyer était de 1350 et passait à 1550.
C'est donc,
c'est immense. C'est 15%. Juste pour vous dire, le taux moyen en ce moment, au total, est 1,7, je pense. En tout cas, autour de 2%. Là. Puis pour le 300 $, c'est 16%.
C'est 10 fois en haut de ce que ça devrait être. Là.
Ben oui, c'est ça, le taux moyen de ce que donnent les propriétaires au Québec, ça tourne environ, là, c'est ça, 2,8 en fait. Puis, mais là, c'est l'augmenté de 16. Puis moi, j'ai parlé à monsieur Baraki pour savoir qu'est-ce qui expliquait genre ces augmentations-là. Et il me dit que dans le fond, là, t'sais, juste pour bien le citer, là, c'était niveau de. Ben, pour l'inflation, bon, est-ce que tout le monde est touché par l'inflation au Québec, mais bon. la hausse des coûts de construction, les assurances puis les taxes municipales. Bon, c'est quelque chose de très large à peu près, genre tout. Mais là, après ça, moi, j'ai contre-vérifié pour dire si c'est vrai que il m'avait dit que les taxes municipales avaient augmenté de 15%. Puis en fait, il avait augmenté de 1,6% pour la majorité des immeubles ou de 9%. 9%, c'est quand même important, là. Je tiens à le souligner, mais c'est quand même pas le 15% qui me disait. Fait que c'est quand même assez énorme là, d'essayer de justifier pour 15 ou 16%. Là. Bonne chance.
Puis c'est...
Ah, puis ouais, ben vas-y.
Mais c'est que les gens, qui justement les locataires, comment ils... J'imagine que tu en as rencontré quand on t'a parlé, mais comment tu fais pour absorber une augmentation de même? Parce que c'est... Mettons, moi, si je me fais augmenter de ça demain matin, je dois déménager. Là. C'est la réalité. Là.
Ouais, puis je peux te donner l'exemple de les deux sœurs Guénette, en fait, Camille puis Joliane, à qui j'ai parlé. Eux, ça fait 3 ans qu'ils vivent la même situation année après année. Puis c'est un peu un combat de leur vie, dans le sens que ils essayent de faire abolir la clause F. Eux, ils restent là par principe, ben pas par principe, parce qu'ils veulent rester là aussi, là. Puis il n'y a pas d'autre place où déménager à Saint-Calix. Absolument pas d'autre place, mais eux, c'est juste
ça, parce que lui, j'imagine, il a augmenté tout son parc d'une chose.
Ben, c'est difficile à dire. J'ai pas parlé, mettons, aux 102 logements, mais on peut supposer que probablement que oui, parce que, ben, en tout cas, la dizaine de locataires à qui j'ai parlé, c'était le cas. Puis dans les autres années, c'est pas la première année qui fait ça, c'est ça, justement, les sœurs Guénette, il a augmenté de 900 $ en 3 ans. Ce qui représente, tenez-vous bien, c'était 1250 en 2019, puis aujourd'hui, c'est ça, c'est le 2150. C'est une augmentation de 72% en 3 ans.
C'est énorme. Mais 900 $ en 3 mois, admettons, sur une année complète, là, fois 12, on n'est pas loin d'une augmentation de 9 000, tu sais. 8 000-9 000, mais tu sais, comme personne n'a un salaire, à moins de changer de job ou avoir une immense augmentation de job, mais genre, c'est fou. Admettons, tu as la même job, tu peux pas vivre là-dessus.
Hey, c'est vraiment très difficile. Il faut que tu aies une méchante augmentation de salaire pour...
Puis mettons, parce que c'est ça qui est triste, ces gens-là font quoi?
Ben, c'est ça. Puis aussi, comme tu le disais bien, tu l'expliquais bien, c'est que tu budgètes. Si tu fais un budget, tu te dis, bon, ben, mon augmentation de loyer l'année prochaine ne devrait pas être plus de 3-4%. Puis là, moi, souvent, que j'entends comme contre-argument, c'est de dire, ben, vous avez juste à pas déménager dans ces nouveaux logements-là, ceux qui peuvent pas payer de telles augmentations. Mais comment tu peux envisager une augmentation de 72% en 3 ans, tu sais? Pas grand monde qui vivent ça. Puis, en tout cas, là, j'ai complètement dérangé. C'est quoi ta question?
Puis c'est surtout, moi non plus, mais c'est surtout que, admettons, on parle depuis le début, il n'y a pas de logement. Donc, j'imagine, lui, quand il a fait ces logements-là, ben, c'était bien pour les gens. T'sais, c'est comme dit, ça, il répondait à un besoin. Donc, le monde, ils n'ont pas le choix. Ils se prennent une maison, mais ils ne s'attendent pas à avoir une augmentation complètement démesurée pendant les 3 années qui suivent. Là,
en fait, personne ne s'y attend. 72%, je m'attends pas à ça demain matin dans mon logement.
Puis ce monsieur-là, ce couple de propriétaires-là, est-ce qu'il se défendait bec et ongles? C'était quoi leur attitude par rapport à... Parce que j'imagine, du côté de locataire, il devait avoir une forme de comme...
de résistance.
Oui, ouais, exactement.
Ben c'est ça, c'est comme ça que je les ai connus. C'est que les sœurs Joliane puis Camille m'ont contacté. Ils m'ont dit « Hey, ça fait 2-3 ans qu'on se bat à chaque année. Ils ont un groupe Facebook, ils sont une dizaine de là-dessus. » Puis l'année passée, ils ont essayé d'aller, même si techniquement, comme je dis, ils peuvent rien faire contre une augmentation de la clause F, ils se sont rendus au TAL pour comme montrer que c'était exagéré, ben ils ont perdu. Puis
ouais, ils ont perdu.
Ils ont perdu, c'est ça, l'année passée. Puis c'est ça, ils restent là, puis ils continuent le combat année après année. Mais les propriétaires, en tout cas, moi, j'ai pas parlé à sa femme, là, Isabelle Terrien, mais j'ai parlé à M. Baraki pendant une heure de temps quand même. Mm-hmm. Puis comme je disais, c'était question d'inflation, taxes municipales. Ils restaient vraiment sur le même discours. J'y expliquais, ben, vous savez que ça, quelqu'un qui a un salaire, il ne peut pas augmenter son salaire substantiellement comme ça. Puis il disait, ben, moi aussi, l'inflation m'affecte comme tout le monde. Puis les coûts de construction aussi, ça j'avais mentionné, mais c'est vrai que les coûts de construction ont augmenté. Puis je peux comprendre pour les propriétaires, mais c'est parce que les constructions datent de 2017, pas 2021. Là. Comment tu peux me justifier une augmentation des coûts de construction quand son bâtiment il date de 4 ans?
Ouais. Mais lui, il gère ça comme une business. Là,
mais oui, c'est ça, c'est une business. T'sais, en logement, tu as vraiment deux façons de voir la chose, deux extrêmes. Mettons, on dessine une ligne.
Ouais.
Est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est un bien de consommation? Puis souvent, la réalité est plus nuancée, est plus entre les deux. Mais lui, probablement qu'il voit ça juste comme un bien de consommation. Je ne vais pas y mettre des mots à la bouche, mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'il agit. Là,
tu me dis un parc de combien de...
Ben, c'est environ... c'est des milliers de logements. Puis il me semble, de mémoire, 3000. Parce que, mais sinon, c'est certainement des milliers. Là, entre 1000 et 2000. Là, fait que c'est quand même beaucoup de portes. Là, c'est un important propriétaire. Là,
Mais qu'est-ce que font les... Parce que c'est ça qui est triste. Parce que j'imagine... Admettons, on est à Montréal. Que tu as une augmentation, tu dois déménager. Autant c'est terrible. Puis genre, je peux comprendre qu'il y a une forme de très grande violence dans le fait de devoir déménager, parce qu'un logement, c'est ton chez-soi, puis c'est un droit en soi. Le logement, avoir un toit sur la tête, c'est un minimum. Là, on s'entend, on n'est pas dans du luxe. Mais, tu sais, devoir déménager d'un quartier à un autre, ben ça peut être désagréable, mais tu peux dire, ben tu sais, c'est pas obligé de changer nécessairement de job. Tu peux essayer de garder les enfants dans la même... Mais tu sais, là, mettons, tu habites dans une ville, tu dois déménager dans une autre ville... L'impact sur ta vie doit être titanesque. Là.
Ben oui, il est énorme. Puis ça me fait penser justement à une des locataires de Saint-Calix, là, Émilie Provençal. Elle, son fils souffre d'un spectre de l'autisme, puis elle a besoin des services essentiels dans sa municipalité. Elle ne peut pas déménager du jour au lendemain. Ben, c'est ce qu'elle m'expliquait. Elle ne peut pas partir. Si en fait elle veut partir de municipalité, elle va perdre tous ses services, puis elle va devoir refaire une liste d'attente, puis elle va devoir. T'sais... Fait qu'on oublie que comment un logement, c'est plus. Que, ah bon, ben, tu sais, oui, c'est un toit sur la tête, puis tu habites à quelque part, mais tu peux pas comme prendre une personne, puis juste l'envoyer. Tu habites à Drummondville, puis paf, tu t'en vas à Sherbrooke, puis paf. Tu sais, il y en a qui sont capables de le faire, tu sais, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont besoin des services spécifiques, puis ben, comme ce cas-là, justement. Là.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, ça peut affecter beaucoup le changement d'école aussi, tu sais, justement.
Ben, c'est ça.
C'est quelqu'un qui, tes enfants vont à l'école, ils ont tous leurs amis, puis là, du jour au lendemain, refais-toi un cercle social, puis c'est vraiment difficile, tu sais, ou tu as un emploi aussi, tu sais, tu travailles à une certaine place. Il y a beaucoup de monde qui font du télétravail, mais c'est pas encore le cas de tout le monde, tu sais. Fait que bonne chance après ça, là.
Ouais. Oui, puis cette situation, justement, c'est pas des gens qui choisissent. Est-ce que toi, ça t'amènerait, tu dirais que cette situation-là... On pourrait dire que la crise est pire en région qu'en ville. Mais non, est-ce que tu serais d'accord avec cette...
Avec ce statement-là.
Exactement.
je pense qu'elle est vécue différemment, je vais dire ça bien franchement. En région, comme je dis, vu qu'il y a un manque de logement, moi je parle à tellement de locataires que c'est... Ben, il faut qu'ils déménagent de gauche à droite. Il faut que je parte de telle ville, il faut que je me relocalise, il faut que j'aille parce qu'il n'y a juste aucun offre de logement. Ou sinon, tu as une famille de, je sais pas, vous êtes 5, 6, puis là, ben, tu devrais vivre dans quoi? Un 5,5 peut-être? Un 4,5, 5,5? Ben, il faut que tu décides de vivre dans un 3,5, parce qu'il y a juste ça qui est disponible. À Montréal, c'est vraiment une... Ben, puis les loyers commencent beaucoup à augmenter en région aussi. Fait que c'est pas vrai que les loyers sont moins chers en région qu'à Montréal. De plus en plus, on voit des bons là, quand même assez importants. Parce que justement, le monde quitte les grandes villes pour aller en région, puis les loyers augmentent. Bon, puis il y a un manque. Fait que vu qu'il y a un manque, ça fait augmenter les prix.
Puis il y a un manque partout, donc.
Ouais, c'est ça. Puis à Montréal, par exemple, c'est parce que c'est des... puis c'est des constructions assez luxueuses souvent. Les logements, il n'y a pas beaucoup de logements sociaux, mm-hmm. pas beaucoup de logements abordables. Il n'y a pas eu de construction de logements sociaux au Québec, en fait, depuis 1994. Mm-hmm. C'est ça, c'est un truc qu'on oublie. Là. Ça fait quand même très, très longtemps. Puis, puis le parc n'est pas rénové. Fait qu'en tout cas, il y a un grand manque de logements sociaux. Puis à Montréal, c'est au niveau des loyers, c'est quand même très, très, très difficile. Fait que je pense que c'est juste vécu différemment là, entre la région et la ville.
C'est des situations qui sont différentes, mais la crise reste.
Le manque de logement. Pour moi, la crise du logement, c'est un manque de logement, c'est généralisé. Là.
Puis c'est ça, j'imagine aussi, c'est que ça se répercute d'un nombre. Tu sais, admettons, je sais qu'en banlieue, il y a une augmentation beaucoup parce que justement, il y a beaucoup de monde dans la ville qui débarquait en banlieue parce qu'il n'était plus capable de s'acheter, d'avoir des logements. Mais pour l'achat de maison, c'est la même chose.
On voulait une cour à cause de la pandémie.
Ouais, je peux comprendre.
On voulait une piscine. Et,
et toi, mettons, parce que là, tu sais, on se parle et tout, mais est-ce que. Des fois, ça t'arrive justement qu'on te critique parce que tu as quand même une position un peu pro-locataire. Est-ce que je me trompe? Pas nécessairement pro-locataire. Mais tu sais, admettons. Est-ce que des fois on t'accuse parce que j'imagine là tu parlais de l'histoire avec le propriétaire, tu sais, il avait l'air de bien défendre des affaires, mais il doit y avoir du monde qui ne doivent pas être contents nécessairement de ton travail.
Ouais, ben ça arrive souvent que moi je suis sur tous les groupes de locataires sur Facebook. Je sais pas si vous allez sur des groupes de locataires. Ou, en tout cas, c'est souvent des gens quand ils sont à la recherche d'un logement ou d'un conseil. Avant de prendre un avocat ou d'aller au tribunal administratif du logement, ils vont questionner le grand public sur les réseaux sociaux.
Puis Spotted de Montréal.
Ouais, j'ai un peu des trucs du genre le Spotted de Montréal. Mais sur ces groupes-là, ça m'arrive. Moi, je publie tous mes textes souvent parce que bon, il y a mettons une dizaine de. Le groupe le plus important, il y a à peu près 10 000 personnes. Puis souvent, les gens, il y a beaucoup de circulation, ça commande beaucoup. Puis bon, je considère que, mettons, mon texte est une information publique utile. Fait que, tu sais, ça peut être une information utile, je veux dire, pour le public. Puis beaucoup de propriétaires m'attaquent, tu sais, ils vont me dire carrément ah, c'est ça, tu fais juste des textes de locataires ou tu fais juste. Ils vont me dire des insultes carrément, tu sais. Puis je m'occupe pas de ça, honnêtement, parce que j'ai fait quand même beaucoup. J'ai fait beaucoup plusieurs textes. Pour les propriétaires ou en tout cas d'intérêt pour les propriétaires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise du logement affecte je pense beaucoup plus un locataire qu'un propriétaire aussi au final. Tu sais, comme si un locataire vulnérable qui est marginalisé, qui n'est pas capable de se trouver un logement, ben tu sais, lui peut se retrouver dans la rue, alors que le propriétaire, tu sais, c'est plus un. Ben, je vois pas vraiment comment ça peut l'affecter. Sinon,
comment un propriétaire se retrouve à la rue après un problème avec son locataire?
T'sais, c'est ça, c'est qu'en ce moment, le marché fait en sorte que... Ben là, on a lu dernièrement que la surenchère risque de diminuer à l'automne, là, mais en ce moment, c'est justement, il y a tellement de surenchères, il y a tellement de... Les prix, les niveaux de l'immobilier sont fous que c'est plus les propriétaires qui s'enrichissent, fait que eux, pour eux, c'est pas tant un problème. Ils font quand même l'argent, mais quelqu'un qui se retrouve dans la rue, tu perds toute ta vie. Là, fait que c'est vraiment très difficile. Puis nous, je veux dire, en journalisme, on couvre les problèmes, puis on veut trouver des solutions, puis on veut mettre en fait la lentille, mettre l'intérêt public sur un problème. Fait que c'est sûr qu'on risque de plus couvrir les problèmes de locataires. T'sais, quand c'est un grave, ou des trucs de rénoviction, ou des évictions frauduleuses, des trucs comme ça. Mais
ça, est-ce que tu en couvres beaucoup des histoires de même?
De
rénovictions, puis...
Ah oui, énormément. Ouais. Mais c'est ça qu'on couvrait beaucoup depuis 2 ans. T'sais, c'est des rénovictions, je sais pas si je peux peut-être faire une parenthèse, juste dire c'est quoi rapidement. Là, c'est que quand que tu vas vouloir faire des rénovations majeures, techniquement, pour une rénovation majeure, tu peux pas te faire évincer. Mais là, tu vas trouver un moyen de genre dire « OK, ben je vais réparer tel truc, puis ils vont te mettre dehors pour après ça comme retaper ton logement au complet, puis mettons faire beaucoup plus de rénovation que qu'est-ce qu'il aurait dû avoir au départ. » Tu sais, mettons, ça se peut que tu aies vraiment de la plomberie à changer chez vous. Tu sais, ça se peut que y a eu vraiment des problèmes. Mais mettons, si je te relocalise pour après ça mettre un plancher de bois franc puis genre du marbre dans ta cuisine, c'était peut-être pas utile tes rénovations. Tu sais.
Ouais, c'est ça.
Puis augmenter le loyer genre substantiellement. Tu sais, c'est
là qu'il y a problème. Moi, si tu mets du marbre dans ma cuisine, je dirais pas non. Si je peux y retourner après, moi, ça me dérange pas.
Mais le problème, c'est que vous n'avez pas payé le même loyer. Tu sais.
Oui, c'est mais... ça. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le pays. Tu sais, je veux dire aussi, je dis souvent, c'est pas. Je suis vraiment pas. Rien contre les propriétaires, puis il y a des très très bons propriétaires, puis des très bons locataires, puis inversement des mauvais locataires, mauvais propriétaires. Ouais. Je prends juste dans mon. Là, je généralise pas, mais je parle juste personnellement. Moi, j'ai une très très belle relation avec mon propriétaire, puis je Tu sais, c'est peut-être pas que j'écris... peut-être qu'il lit pas mes articles, en final, ouais. Là, mais...
tu lui envoies pas.
Ouais. Ma copine, elle me niaise souvent. Tu sais, ouais, elle va peut-être pas nous louer si tu commences à lire tes articles. Tu sais, tu lis pas trop, c'est quoi ta job.
Mais en même temps, c'est ça. C'est autant il peut avoir des bons proprios ou quoi que ce soit, mais tu sais, la réalité, c'est que c'est... Ils ont, en ce moment, surtout avec la crise, vraiment le gros bout du bâton. Tu sais. Puis c'est pas... La réalité, c'est que... Ils y gagnent là, à la crise. Eux, ils augmentent nos loyers de façon assez substantielle.
Ils peuvent augmenter les loyers, puis ils sont dans les poches.
Mm-hmm. Donc,
Mais à un moment donné, je me dis que... Mais c'est parce qu'un des problèmes aussi, c'est que c'est ça, souvent pas les petits propriétaires, mais c'est les grands propriétaires qui font énormément de flips immobiliers, tu sais, qui mm-hmm. s'en foutent un peu de la valeur de la personne à l'intérieur d'un logement. Mm-hmm. Tu sais, de comprendre que c'est une petite famille qui est là depuis 10-15 ans, puis qui a fait pas de problème, ou... peu importe, mais elle arrive, je te retape ça, tu sais, c'est un logement qui est abordable, qui serait destiné à des personnes qui font un revenu moyen de 60-70 000. Moi, je trouve un moyen de t'évincer, je retape ça, puis là, c'est plus un logement destiné à des personnes qui font 120 000, tu sais, c'est mm-hmm. plus là le problème souvent. Ouais. Tu sais.
Qui fait en sorte que les gens qui ont peu de revenus se retrouvent coincés en quelque sorte.
Oui, c'est ça, 100%.
Et on a une bonne discussion, puis ça avance vite, mais je voulais parler, parce que justement, là, on parlait de la crise en région et tout, mais il y a d'autres aussi, plein d'enjeux qui se rajoutent mm-hmm. à ça, puis il y a un enjeu que toi, tu voulais me parler, tu m'en avais parlé,
ouais.
Mais c'est les problèmes avec les animaux de compagnie.
Ouais.
Que par exemple, si tu as un animal de compagnie, ben, ça peut être vraiment très, très difficile ouais. de trouver un appartement.
Ben, je pense que vous ne l'avez pas souligné dans le premier épisode, parce que c'est ça, je l'écoutais, puis mais tu sais, c'est les animaux de compagnie, les personnes en fait qui ont un chat, un chien, peut-être moins un lapin là, mais mettons ouais. surtout en fait les chiens, même les chats, c'est un petit peu moins problématique, mais c'est que vu que les propriétaires sur le bail peuvent interdire les animaux de compagnie, ben tu pars peut-être avec un moyen, tu sais, ou deux prises au bat, t'sais.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça, les personnes mettons qui ont un chien, puis souvent c'est vu comme un soutien émotionnel, c'est vu comme
un membre
de la famille, c'est ça, 100%. Ben t'as pas envie de t'en débarrasser parce que tu veux trouver, ou je veux dire, le mettre en refuge parce que tu veux trouver un appartement. Mais là, tu te dis, ben, est-ce que j'ai pas vraiment le choix là, parce que c'est soit ça ou soit je me retrouve à la rue. Mm-hmm. Moi, j'ai parlé à beaucoup de monde qui m'ont dit, genre, ben, en fait, énormément de monde que c'est à cause des animaux de compagnie qui sont pas capables, la majorité mm-hmm. du monde, même, je dirais, là, que c'est parce qu'ils ont un chien ou ont deux chiens, puis le propriétaire est comme non, moi, j'accepte pas, puis ils sont capables de toute façon de trouver. Tu sais, je peux comprendre l'opinion quand même du propriétaire. Tu sais, je comprends que c'est son bien, puis il peut décider lui-même s'il veut un chien ou non, tu sais, mm-hmm. ou un chat. Mais en même temps, à l'inverse, il y a déjà des dispositions, en fait, au tribunal administratif du logement qui protègent le propriétaire de s'il y a des dommages à cause du chien. Tu sais, fait que si, mettons, le chien, je sais pas, là, il a brisé le plancher, ben tu peux aller au... Il peut t'amener le locataire au TAL puis dire « Ah ben, je voudrais qu'il répare, qu'il paye pour les dommages et intérêts que ça a causé, tu sais, ce dommage-là. »
Comme n'importe quel dommage, j'imagine.
Ouais, fait que c'est ça. Est-ce que c'est bien de généraliser, parce que pour, mettons, c'est ça, quelques cas problèmes, puis surtout que la disposition, elle existe déjà, ben, tu sais, la question se pose. Puis je comprends que, par contre, il peut avoir des abus, tu sais, peut-être des très gros... Ou des fois, c'est que aussi les propriétaires vont dire, certains propriétaires, que... mettons, ils ont un 3,5, puis là, la personne veut amener un husky, bon, ben, pas un husky, là, mais nécessairement un gros chien.
Un chien de... Pas un petit chien
qui bouge beaucoup, ouais. Là, qui a besoin d'espace, ouais. un labrador peut-être aussi, puis il regarde ça, puis comme, OK, mais comment ça, il veut faire venir un... Il peut pas vraiment... Il y a pas beaucoup d'espace là-dedans. Il y a pas de cours, il y a pas rien, tu sais. Mais bon, c'est la question qu'on peut se poser. Là. Est-ce qu'on devrait peut-être repenser à cette clause-là? En fait, la SPCA a aussi déposé une pétition en ce sens pour abolir cette clause-là du bail.
Mais ça, bon. En ce moment, le propriétaire est dans ses droits de refuser ça.
Oui, il est dans ses droits d'inscrire dans le bail. Moi, je veux pas d'animaux de compagnie. Donc, c'est très large aussi, là, c'est animaux de compagnie. Fait que tu peux pas, mettons, si tu as deux chats, il peut juste dire interdiction animaux de compagnie. Puis...
Ouais. D'ailleurs, Paul, vous avez deux chats. Donc,
oui, vous avez deux chats. Fait que c'est ouais. ça. Ouais. Fais attention.
Mais c'est ça, mais c'est la réalité, c'est qu'un chat, c'est assez subtil. T'sais, mettons, mon propriétaire dit, je veux pas, puis j'ai même une tortue aussi, avec un immense aquarium, mais... D'ailleurs, si je peux dire une petite anecdote, en nous, mon propriétaire est venu, puis là, il a vu que j'avais une tortue qui est comme... si en fait, ben, c'est quand même un gros aquarium avec beaucoup d'eau dedans. Donc, j'étais comme, quand il l'a vu, j'étais comme, whoop, là, et peut-être il sera pas content de voir un immense avec 40 litres d'eau dans l'appart. Mais il avait l'air de dire, ben, nous, tant qu'il n'y a pas de dégâts d'eau, je m'en fous. Puis on trouvait ça drôle. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'il pourrait refuser ça. Mais c'est, admettons, il disait, je veux pas que tu aies un aquarium demain, mais tu sais, je serais obligé de m'en débarrasser de cet animal.
Ben ouais, tu sais, tu vois, même si je sais que tu es attaché à ta tortue, je pense que ça fait comme, tu l'as depuis l'enfance.
Elle a presque 20 ans, là, tu sais, donc.
Il pourrait y aller quand même.
Ouais.
Ben tu sais, tu vas choisir ton logement avant ta tortue, j'imagine, tu sais.
Ben, parce que c'est un.
Si maintenant, t'en avais absolument aucun, je pense.
Ben, c'est ça, tu sais, c'est.
Pauvre carapace.
Mais ça, c'est une réalité, c'est que je trouve que ça donne comme un grand
pouvoir.
Oui, c'est ça. Ça donne comme un gros pouvoir au propriétaire. Puis c'est ça, je trouve, mais le problème, c'est qu'en même temps, une tortue, c'est subtil, ou avoir des chats, c'est quand même assez subtil. Mais un chien, c'est surtout un gros chien, mais tu sais, il faut que tu le sortes, il faut que tu le promènes. Donc, même si tu le dis pas trop, puis tu fais ça. Tu te vas faire coincer.
Un chien, c'est difficile parce que moi, moindrement qui vient, le propriétaire, il va le voir. Là. Mais un chat, souvent, moi, j'ai vu à plusieurs reprises des locataires qui vont cacher. Là, peux-tu garder mon chat pendant que je visite des appartements?
Ben, c'est ça, exactement.
Puis après ça, si le propriétaire a à venir, ben, tu peux facilement cacher plus un chat où ça fait pas de bruit beaucoup.
Exactement. T'sais. Un chat, c'est subtil. Mais c'est vrai que ce que tu dis, par contre, comme on voit beaucoup d'annonces. Moi, juste quand tu cherches un appartement ou quand tu vois des annonces, là, j'ai l'impression plus de la moitié au moins. Là, c'est pas d'animaux, puis c'est comme...
Pas d'animaux,
clair. Ouais. Même plus la moitié, je suis très conservateur dans mon chiffre.
On voit le même. Il y a beaucoup d'annonces ces dernières années, surtout. Là, pas abandonner ses animaux le 1er juillet.
Ouais.
Ça explique aussi là, ce phénomène-là.
Oui. Qui ne doit pas l'expliquer tout seul, mais...
Oui. Puis souvent, ils vont... ouais, c'est souvent, ils vont le dire, comme tu dis, justement, Gaël, là, comme au 1er juillet, ils vont faire la conscientisation, justement, là, pour faire attention à vos animaux, de ne pas les abandonner, justement... à cause du logement, mais des fois, il y en a qui peuvent absolument rien faire. Là.
Mais non. Mais ça, comme tu dis, par exemple, c'est quand même un enjeu que les gens parlent beaucoup. Tu sais, par exemple, j'ai vu, je pense, Québec solidaire aussi voulu proposer un projet de loi pour enlever cette motion-là, parce que souvent, ça met les gens dans les difficultés.
Puis, puis souvent, en fait, ben, comme la SPCA, où j'ai vu aussi Québec solidaire, ils vont dire que le problème, c'est pas nécessairement l'animal, mais c'est le maître, là, au final. C'est,
comme dans tout.
C'est ça, c'est le maître qui va dresser l'animal, faire en sorte que c'est un cas problématique, donc... ben voilà, c'était la petite parenthèse. Animal de compagnie.
Dans ton travail, tu couvres quand même beaucoup d'histoires de conflits entre, justement, tu parlais de rénovation et tout, entre le propriétaire puis le locataire. Est-ce que, selon toi, les gens connaissent assez bien leurs droits dans ce genre de conflits-là?
Ben, c'est une bonne question. C'est une grande question. Je pense que c'est pas qu'ils veulent pas la connaître, ou c'est qu'il y a un problème. Puis il y a beaucoup de ressources aussi, mais c'est que souvent, ils n'ont pas le temps. Aussi, tu sais, comme, t'as pas le temps de nécessairement commencer à étudier la loi, tout ça. Puis c'est assez complexe, là, pour vrai. Moi,
puis personne n'a envie d'étudier une loi.
Ou le tribunal pour le plaisir, au complet, en fait. C'est ça, le code civil. Puis même moi qui travaille là-dedans au quotidien, il y a tellement de choses à apprendre que je connais pas tout. Il y a des jurisprudences, il y a des jugements passés qui viennent briser. Mais non, je pense qu'il y a peut-être un... les gens ont tout à gagner. Les locataires ont tout à gagner. Puis même les propriétaires aussi, ça va dans les deux sens à connaître leurs droits. Parce que justement, ça peut éviter bien des problèmes, bien un paquet de problèmes. Puis comme je t'expliquais, Paul, aussi là, avant le podcast, il y a seulement deux manières d'évincer un locataire au Québec. Il y a un truc qui s'appelle qui est très, très, très puissant dans la loi de la Code civile. Dans le Code civil, je pense que c'est presque... si je me trompe pas, en Amérique du Nord, on est un des seuls endroits avec ça, qui s'appelle le droit au maintien dans les lieux. Ça veut dire là, que advienne que pourra, là, ton propriétaire peut dire n'importe quelle raison, il peut pas t'expulser de chez vous. Si tu payes ton loyer, si il n'y a pas d'insalubrité, si tu respectes tes conditions du bail, là, si tout est dans l'ordre et tu es un bon locataire, là, je parle, là, pas si tu as quelque chose à te reprocher, mais si tu n'as rien à te reprocher, ton propriétaire doit... il peut absolument pour aucune raison t'expulser. En fait, il existe juste deux dispositions dans la loi. Puis c'est ça que s'il y a un élément que les locataires peuvent se rappeler à la fin de cet épisode-là, c'est bien ça. Rappelez-vous que votre propriétaire ne peut jamais vous expulser, sauf pour deux raisons. La reprise de logement, donc la reprise de logement, c'est vraiment un membre de la famille proche. C'est vraiment écrit dans la loi. Donc, c'est ta mère,
tes parents,
c'est ça que j'allais spécifier, parents, ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur. Sinon, quelqu'un aussi que t'es...
marié.
Oui, marié aussi, je pense, c'est ça, marié. Mais il y avait un autre point aussi, c'est le. Je pense que quelqu'un qui était à sa charge, bon, je cherchais le terme.
Ok, ouais, ok.
Fait que c'est vraiment les seuls possibles, mais tu peux pas, mettons, le petit cousin de ton grand-père. De,
ouais, ça, genre, ça fonctionne
très loin,
pas.
Là, c'est, ouais. Ça fonctionne pas pour la loi. Fait que c'est ça, rappelez-vous, c'est quelqu'un de très, très proche.
Puis j'imagine ouais. que aussi, si on se fait évincer pour cette raison-là, on peut revenir et dire, ben finalement, il a mis le cousin de son grand-père par la trop fesse ouais. gauche, genre.
Ben tu vois, il y a un cas, il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps. Que justement, c'était une fausse éviction, une fausse reprise de logement. Puis la fille a gagné l'allocataire dans 10 000 $ environ.
C'était
dans
quand, même.
Quand même un très, très bon montant. Là. Parce que c'est ça, c'était une fausse reprise de logement. Elle a rénové l'appartement. Puis elle avait dit, je pense, un membre de sa famille, mais il n'y avait aucun membre de sa famille qui était venu. Là. C'était vraiment juste une rénovation. Okay. Puis, fait que c'est ça, soit la reprise de logement ou l'autre, c'est l'éviction pour agrandissement, subdivision. Ou changement d'affectation aussi, ou démolition, en fait. Bon, là, je viens d'en nommer quatre, là.
Ouais.
Mais c'est une éviction, dans le fond, parce que je veux soit reprendre le logement parce que je veux, mettons, c'est un logement, je veux en faire un commerce.
Okay.
Fait que si ton propriétaire arrive, il dit, ben là, je veux faire un restaurant à la place, ou changement d'affectation, mettons.
Oui, ça, il change, ça passe d'un ouais. logement à autre chose.
Soit parce que je veux ajouter une pièce, c'est fait que, tu sais, mettons, okay. C'est un 3,5, à côté, c'est un 4,5, ou ben un 5,5, mettons, puis là, tu sais, je...
Il veut fusionner
ça. La subdivision aussi, en fait, c'est ça, c'est okay. de fusionner deux appartements. Puis agrandissement. Fait que c'est vraiment une éviction parce qu'il veut changer le cadre du logement. La fonction même du logement, c'est un 4,5. Ben, il veut en faire un 3,5 ou il veut en faire un commerce à la place. C'est vraiment changer l'affectation du logement. Mais pour ça, il ne peut pas faire aussi n'importe comment. T'sais, il doit donner. Il y a des cadres, des balises vraiment importantes. Il doit donner 6 mois de préavis. Puis il faut qu'il donne un avis écrit. Après ça. Toi, tu as le droit de refuser, puis après ça, lui, il va te dire, c'est ça, là, j'explique rapidement, là, mais après ça, il va revenir, puis il va devoir justifier pourquoi il veut t'évincer ou te reprendre ton logement.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, le locataire, même si techniquement la reprise est de bonne foi, puis il doute, ben, il y a des recours au tal quand même. Là, okay. Il peut refuser pour dire, mettons, ben, je suis pas sûr que c'est vrai. Parce que des fois, il pourrait dire, je vais reprendre le logement pour y loger ma mère, mais finalement, il n'y a jamais eu de mère, tu sais, dans les
cours. Ouais, comme l'exemple que tu as donné ouais. un peu.
Moi, j'ai déjà couvert un cas aussi qu'ils ont fait passer une reprise de logement pour la mère d'un gars, et entre-temps, ils ont vendu l'immeuble, puis là, c'est devenu la propriété d'une autre personne, puis l'autre personne essayait de. Évincer quand même la personne pour reprise de logement. Mais tu sais, technique, je sais pas si.
Ouais, c'est ça. C'est en fait, là, c'est l'autre. Mettons, c'est toujours la mère.
Je veux t'évincer, Paul, ouais. Pour reprendre ton logement pour ma mère. Puis entre-temps, je vends l'immeuble, genre.
Ouais.
Puis là, la nouvelle personne dit, ah ben, c'est encore bon, la reprise de logement pour la mère de l'autre gars, tu sais.
Ok, ouais, non, c'est ça. Okay. Il y avait quand même un long stretch là-dessus.
Ouais, c'est ça. Okay. Fait que tu sais, c'est toujours un peu logique aussi de te dire, tu sais, qu'est-ce que. Tu sais, je suis pas avocat, puis je veux faire bien attention aussi à ce que j'avance, tu sais, consulter toujours un comité logement. Ou un avocat parce que moi je suis vraiment journaliste puis je vous dis seulement qu'est-ce que la loi dit mais pour rentrer dans les détails de votre cas personnel vous êtes toujours mieux d'aller voir c'est, moi je parle en termes du code civil là, dans le fond je dis vraiment ce qu'on lit dans le code civil mais c'est ça vaut la peine de toujours faire défendre ses droits là, je pense.
Ouais, défendre, connaître ses droits.
Connaître ses droits, c'est ça, oui.
Mais comment expliquer dans ce sens-là alors des rénovictions? Parce que là, si admettons, si c'est pas pour ça, comment...
Ah oui, ouais, ben, la rénoviction, c'est que c'est ça, c'est que souvent, ils vont faire passer par la troisième voie d'évincer quelqu'un temporairement. Mais c'est pas une éviction, c'est ça, c'est la rénovation majeure. C'est qu'il y en a
mais
qui...
ça, c'est supposé être temporaire.
C'est temporaire.
Mais souvent, le monde font juste partir.
Exactement. Si les travaux doivent durer plus de 10 jours de temps... t'as le droit d'évincer ton locataire. Ben, relocaliser, pas. Je veux pas dire évincer, là. Mm-hmm. Je vais me faire taper ses doigts sinon, là. Mais relocaliser ton locataire pendant une certaine période de temps. Puis ton propriétaire doit te payer ton déménagement et doit payer la différence de loyer, mettons, entre ton loyer et le nouveau loyer. Puis c'est bien balisé, là. Tu sais, mettons, je te relocalise parce que je dois refaire la tuyauterie parce qu'il y a du plomb. C'est ce qui pourrait très bien, d'ailleurs.
Ouais.
Il y a du plomb, ben je vais te relocaliser pendant une certaine période de temps. Mais là, après ça, c'est là qu'il y a des cas de qu'on parle de rénoviction. C'est qu'entre-temps, le propriétaire va reprendre l'appart puis oh, ben, il va changer le plancher, il va mettre du marbre dans la cuisine, comme je disais. Il va le rendre plus luxueux ou comme plus en dehors de qu'est-ce qu'il était à la base, sa valeur à la base. Puis là, entre-temps, tu reviens. Puis lui, c'est parce qu'il a le droit au tal d'augmenter ton loyer selon un certain pourcentage en fonction des travaux.
Mm-hmm.
Fait que si il arrive et il dit, ben tu sais, j'ai fait le plancher, j'ai tout ça, il va pouvoir t'augmenter quand même substantiellement.
Mm-hmm.
Alors que c'était peut-être pas nécessaire, tu sais. C'était peut-être pas.
Ça, c'est autant.
C'est ça que souvent, en fait, les gens vont en fait faire la différence aussi entre rénovation et. C'est quoi l'autre? Ben, c'est ça, rénovation aussi, puis tu sais, de refaire un peu les. En tout cas, j'ai oublié l'autre terme, là, mais faire une rénovation, puis aussi d'améliorer l'appartement, là, c'est ça, exactement.
Okay, ouais. Ouais. Mais ça, c'est qu'en fait, c'est qu'ils utilisent ça, c'est sans te mettre dehors, c'est juste qu'ils utilisent un moyen pour augmenter le loyer, d'amener le loyer à un autre niveau qui fait en sorte que les gens sont obligés de partir, mais c'est...
Ben oui, c'est ça, c'est que le logement ne correspond plus à leur loyer, à leur revenu, tu sais. Puis de dire techniquement qu'il était un logement abordable destiné à une famille de revenus moyens, ben là, est devenu...
Finalement, t'es rendu avec des planches en marbre, puis une cuisine en marbre, puis là, t'es plus capable de payer.
Ouais, ça commence à être élevé, là, puis là, t'as une piscine, puis comme quoi, j'ai une piscine, tu sais.
Ça fait quelques...
Finalement, t'avais juste un 3,5 à Rosemont, puis là, t'es rendu avec une piscine dedans.
Ouais, c'est ça, puis là, il y a un gym, puis...
le loyer coûte le triple. Est-ce que dans toutes tes histoires que t'as racontées, il y a des histoires qui t'ont particulièrement touché? Mettons,
Oui, ben oui.
Humainement.
Humainement, ben, tu sais, justement, là, attends, je vais aller le chercher, mais une locataire de Beauharnois, Karine Massé, c'est une histoire de Closef aussi, elle a eu une augmentation de 327$ cette année.
C'est complètement fou des
augmentations. Une mère monoparentale, mais elle, ce qui était la différence, puis où est-ce qu'elle avait possiblement une prise pour l'avocat? Pour aller, je veux dire, au tribunal administratif du logement. Mais c'est où ce qu'elle a une prise, c'est qu'elle, elle a reçu une augmentation de 327$, puis sa voisine, qu'elle a exactement le même appartement, un 4,5, c'était 68$.
Okay,
donc, là, ce que je veux en venir, c'est que comment tu peux justifier qu'elle, elle a 327, puis l'autre, ils sont arrivés en même temps, là. Fait que c'est vraiment le même appartement, le même immeuble. Les deux n'ont pas eu de rénovation majeure. C'est un an, c'était construit depuis un an. Puis les deux, un 327, puis 68. Puis, dans le fond, Karine, c'est parce qu'elle fumait sur son balcon. Puis, ben, en tout cas, c'était nullement inscrit dans le bail qu'elle n'avait pas le droit, puis tout. Mais vu que ça dérangeait, elle a eu peut-être quelques plaintes des voisins, ben, je pense que son propriétaire a, comme, par cette façon-là, trouvé un moyen de vouloir l'évincer. Puis, elle arrivait, puis elle disait, ben, c'est parce que, OK, tu peux pas m'évincer parce en augmentant le loyer, genre, significativement comme ça. T'sais, oui, j'ai une preuve que tu fais la même. La voisine, elle, c'est juste 68$. T'sais.
Ça montre comment ils utilisaient, en fait, la clause F pour juste se débarrasser d'une locataire.
Ouais. De tasser une locataire selon ce qui lui tente. T'sais. C'est ça aussi le problème souvent avec les clauses F, c'est que.
C'est arbitraire.
C'est ça, c'est que souvent c'est arbitraire, ben, en tout cas à plusieurs reprises. Je dis pas tout le temps, il y a des cas que c'est justement peut-être vraiment pour réajuster le loyer à la valeur du marché. Après ça, est-ce que le problème c'est aussi que le marché fait en sorte que les loyers sont beaucoup trop élevés, c'est peut-être un cercle qui tourne, un cercle vicieux.
Mm-hmm. Oui.
Mais dans le cas de Madame à Beauharnois, excusez-moi, j'ai oublié son nom.
Si, pas
est-ce qu'elle s'est faite évincer ou finalement l'as-tu gagné son prix?
J'y ai parlé la dernière fois, ça fait 2-3 semaines, puis est encore en train de se battre pour aller au tribunal. Puis c'est très très long aussi pour aller au tribunal administratif du logement, là, ça peut prendre un an. Là. Puis elle était en train de prendre un appartement, de pas prendre un appartement, mais être avec un avocat puis discuter de ses recours. Là, fait que, ouais. Puis c'est difficile, t'sais, mère monoparentale, 3 enfants. Puis là, moi, j'ai déjà vu des commentaires de dire sur Internet, je parle vraiment pas dans ce cas-là présent, là, mais des personnes qui écrivent, ben, t'as qu'à faire moins d'enfants. Ben oui.
Oui, mais le monde sont complètement débiles. C'est un certain point.
Pas arrêter de faire des enfants.
Oui, non, c'est ça.
C'est...
Ou arrêter de, genre, t'avais juste à pas te séparer. Ben, c'est facile à dire, tu sais,
Mais c'est complètement fou que des gens écrivent ça sur.
Paul, arrêtez de vous séparer.
Non, mais c'est fou que les gens racontent.
Tu sais,
tu
connais aucunement le parcours de la personne, puis hey, non, arrête de faire les enfants. Okay.
Non, mais tu sais, c'est comme. Je vois pas comment les gens dans leur tête arrivent à écrire des commentaires de même, sérieusement. Mais c'est fou, mais moi, ça montre aussi comme ce type de situation-là complètement arbitraire que j'imagine que tu as dû courir souvent, tu sais, qui sont. C'est vraiment, vraiment déplorable. Mais d'ailleurs, je vais te demander cette question-là, puis je la faisais par souci d'équité. Là, mais j'imagine, toi, tu as eu plein d'histoires d'abus de propriétaires, tu sais, comme tu racontes là. Mais j'imagine aussi, toi, ça a dû arriver justement des histoires de mauvais locataires, comme des fois on voit passer. Mais...
Oui, non, c'est ça. Des fois, ça arrive que moi, j'avais eu des cas où d'insalubrité quand même assez intense. Tu sais, mettons que justement un locataire va mal entretenir son logement ou ça va être super crasse. Ça, j'ai quelques cas que j'ai couverts. Sinon, il y avait un cas que c'était aussi, tu sais, des. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est des cas de non-paiement. En fait, là, ça va durer pendant des mois puis des mois. Puis ce que je peux comprendre du côté des propriétaires, tu sais, pour être plus nuancé là-dessus, c'est que ça peut être très long. Des fois, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que ça peut être très long d'évincer quelqu'un aussi. Mm-hmm. Il peut abuser du système en place. Puis c'est pour ça que les deux, souvent, vont s'entendre sur un point, c'est que le système en place du tribunal administratif du logement doit être un peu réformé.
Mm-hmm. Tu disais les deux, autant du côté des locataires que
des propriétaires. Oui, c'est ça, du côté des propriétaires puis des locataires. Mais c'est ça, eux vont souvent arriver puis dire, ben, tu sais, les propriétaires vont dire, ben, c'est parce que, mettons, un cas d'insalubrité, ça peut prendre très, très long. Les délais sont très longs, là, en fait. Ça peut durer des mois puis des mois, là, en moyenne. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu souvent ça que je vois, des cas d'insalubrité, des cas de non-paiement. Ouais, c'est pas mal ces deux-là, souvent, qui m'en viennent.
Mais comme tu dis, mais cette lenteur-là, je pense que c'est, comme tu dis, c'est critiqué de tous les bords. Tu sais, on parlait juste de l'exemple de la madame, que ça avait l'air de traîner depuis des mois, puis qui doit amener les gens à vivre dans un stress assez long. Imagine, tu te bats pour ton loyer. C'est comme, personne n'a du plaisir, j'imagine, à aller là, de base. Mais tu sais, ça doit être long, ça doit être stressant, ça doit être intense. Puis ça doit aussi amener à juste des gens qui disent, je pourrais peut-être faire valoir mes droits, mais j'ai pas l'énergie de me lancer là-dedans. Hein.
Oui, puis il y en a qui j'ai une solution qui me vient en tête, là, mais justement, dans les cas d'insalubrité, aux États-Unis, à Washington, ils ont adopté ça, mais ça s'appelle j'ai juste le nom anglais, là, mais les Fixed Court, qui est, dans le fond, des tribunaux d'insalubrité, en fait. C'est parce que au tribunal administratif du logement, les plus longs dossiers, c'est les cas d'insalubrité. Okay. Fait que même pour un locataire, autant d'un locataire qu'un propriétaire, ça peut prendre de 2-3 ans de régler ça. Puis, mettons, pour un locataire qui habite là, c'est insalubre, ben, jusqu'à temps qu'il fasse valoir son droit, ben, t'sais, il va avoir le temps de quitter le logement parce que c'est insalubre. Ouais. Fait que ça, il va abandonner son cas puis il va juste passer à autre chose. Mais aussi ça, aux États-Unis, le Fixed Court, c'est que c'est les inspecteurs qui vont, les juges, dans le fond, qui vont tout de suite donner le mandat d'aller inspecter moindrement qu'un cas d'insalubrité. Mm-hmm. S'ils vont donner un permis, et ça passe plus nécessairement par les instances de la ville. Ouais. Puis c'est souvent, ils se renvoient la balle. Là. C'est comme le propriétaire va engager son propre inspecteur, la ville va engager son propre inspecteur, le locataire va embaucher son propre inspecteur. Fait que là, c'est pas mal. Ils vont tous dire des affaires différentes parce qu'ils ont un client différent.
Oui, c'est ça.
Fait que lui, c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est que pour comme débloquer ça, c'est qu'ils ont dit, ben là, c'est juste un inspecteur qui est embauché par l'État, le juge, puis
qui prend la décision.
Puis on donne tout de suite un mandat pour aller voir comment c'est fait. Puis si c'est pas réglé d'ici un mois, deux mois, ben t'as une amende. Puis si c'est pas encore réglé d'ici un mois, deux mois, ben t'as une amende. Ouais. Fait que tu sais, je pense que ça pourrait aussi aider n'importe qui, là, parce que il y a des cas d'insalubrité, il y en a beaucoup, là, genre surtout dans Parc Extension, puis Saint-Michel, il y a beaucoup de cas d'insalubrité. On en parle un peu moins. Je voulais juste comme faire une petite parenthèse.
C'est ça, des cas d'insalubrité où c'est des propriétaires qui entretiennent aucunement leur logement, puis ça devient le bordel.
C'est ça. Soit les propriétaires qui entretiennent aucunement leur logement, puis se disent, ben, de toute façon, le locataire, c'est une clientèle très, très défavorisée. Souvent, en fait, qui habite dans ces logements-là, qui arrive au pays, clientèle immigrante ou sinon très pauvre. Puis, eux vont arriver dans un logement insalubre. Là, ils vont dire, ben, j'ai pas envie de vivre là-dedans pendant un an ou deux. Mm-hmm. Fait qu'ils vont partir après 6 mois. Puis ça va être une autre client qui va vivre dans un logement insalubre, puis ça sera jamais rénové.
Puis la moisissure va rester, les problèmes légaux. Ouais.
Puis si on. C'est ça, puis pour être un petit peu plus nuancé, tu peux avoir aussi à l'inverse un locataire qui va démolir un appartement au complet, puis ben, le propriétaire, ça va être très. Ben là, le locataire va comme s'évaporer dans l'air, puis après ça va être très difficile de ravoir, mettons, son argent. Fait que,
Pour les dommages.
Les dommages et intérêts, c'est ça.
Selon toi, là, parce que là, on tire à la fin, tranquillement, je vous amène vers la conclusion. Là. Qu'est-ce qui pourrait vraiment aider la situation? Autre que genre juste construire des logements peut-être?
Mettons en région ou...
En région, pour les deux, si t'as des pistes de solution pour les deux.
Ouais, ben tu sais, j'ai deux trucs qui me viennent rapidement en tête. Puis tu sais, en fait, je vais donner comme une solution propriétaire puis une solution locataire.
Vas-y.
solution propriétaire, souvent, ce qui me parle, c'est d'assouplir les règlements en urbanisme. Dans les municipalités, souvent, sont très, très, très contraignantes. Et tu peux pas... il faut que tu aies beaucoup de permis, il faut que tu aies... ça prend des délais, ça va prendre du temps avant que tu aies tes permis. Puis aussi, il y a souvent une impossibilité de... Mettons, j'ai une unie familiale, puis je voudrais faire un logement au sous-sol. Je peux pas. En fait, je pense que dans plusieurs municipalités l'interdisent carrément.
Okay.
Fait que ça serait de peut-être assouplir ces règlements-là pour permettre à justement peut-être plus de propriétaires, plus de constructeurs de venir construire dans les différentes régions. Ou si, mettons, moi j'ai une maison avec un sous-sol à Repentigny, tu sais, puis j'ai envie de faire venir, parce que moi-même, en fait, j'ai envie de baisser mon hypothèque, je pourrais faire venir quelqu'un qui vit au sous-sol, puis pourrait être très heureux, tu sais, puis ça comblerait, tu sais, un besoin des deux côtés. Puis du côté des locataires, c'est sûr qu'en région, ça serait de soit... Là, je vais revenir sur la clause F, parce que c'est ça, on n'a pas tant parlé de peut-être les solutions là-dessus, mais soit une abolition totale. Il y a beaucoup qui vont revendiquer la complète abolition de la clause F. Donc, c'est plus possible de faire des augmentations assez substantielles comme ça. Il y en a qui vont dire... Mais ça, c'est le gouvernement s'est prononcé là-dessus. Ils veulent réduire la clause F.
OK. Plus empêcher les augmentations complètement.
Empêcher les augmentations, au mieux les justifier, au moins.
Oui. Bien, c'est ça. Puis là, le gouvernement, eux, vont dire... Bien, on va... En fait, juste avant la fin de la session parlementaire, il avait fait dans un projet de loi pour que ça diminue à 3 ans.
Mm-hmm.
Puis finalement, ça l'a pas passé. Là. En tout cas, c'est parce qu'ils sont allés... Il a manqué de temps. L'opposition a voté contre. Puis ça, ils vont revenir l'année prochaine. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont venir l'année prochaine là-dessus.
Mm-hmm.
Mais ils voulaient le réduire à 3 ans.
OK.
Fait que là... mais en même temps, il y en a qui disent aussi à l'inverse, « Ouais, mais là, c'est que mon augmentation que j'allais avoir de 1 000$ sur 5 ans, je vais l'avoir sur 3 ans. »
Ouais, c'est ça.
Fait que ça, c'est un point qui peut se valoir aussi.
Oh, mais c'est correct qu'on va avoir un autre chèque à la fin de l'année.
Bien, ils ont monté. Mais un autre point, par exemple, que je trouvais intéressant, ce qui peut peut-être valoir des deux côtés, là, ce serait l'établissement d'un plafond. De dire, OK, clause F existe, peut-être sur 2-3, on la réduit peut-être 2-3 ans, mais on ne peut plus faire une augmentation au-dessus de 5%, au-dessus de 10%.
Ouais.
Je ne sais pas, j'envoie des chiffres en l'air comme ça, là, mais...
Mais ça a évité des augmentations de 16-17%, un peu comme tu disais tantôt.
Ou de 72% au niveau de 3 ans.
C'est fou, ça.
Ou si tu la justifies avec l'inflation, que ça suive la courbe de l'inflation à tout le moins.
Oui, c'est ça, à tout le moins. Les propriétaires, moi, j'entends beaucoup aussi qu'ils vont me dire, nous, on demande juste que l'augmentation suit l'inflation environ. Comme je pense que c'est 4-5% environ là, à peu près. Mais là en ce moment le TAL c'est plus 2%, puis ça, il y en a beaucoup que ça les énerve là. Ils aimeraient ça que ça soit plus important là.
Ouais, okay.
Mais c'est ça, peut-être pour revenir aux solutions, toucher à la clause F, parce que aussi justement, si mettons il n'y avait peut-être pas la clause F, ça c'est la version des propriétaires, vont dire s'il n'y a pas de clause F, ils vont peut-être avoir moins de construction. Personnellement, moi je crois pas là. Je dis, tu ne vas pas empêcher, tu ne vas pas dire je ne vais pas construire parce qu'il n'y a pas de clause F là, maintenant.
Quand ils vont faire de l'argent,
oui c'est ça. Puis fait que peut-être c'est côté locataire, côté propriétaire, ça serait d'assouplir les règlements au niveau de l'urbanisme, puis de l'autre côté toucher à la clause F là. Puis je pense en fait la construction de logements sociaux aussi,
ouais.
Ça, genre, objectivement, il n'y a pas de construction de logement social, puis c'est complètement absurde. Là. Je ne comprends pas comment... en fait, il commence à en avoir, mais c'est tellement long. Là. Genre, je regarde les cas, là, puis c'est le gouvernement, je comprends pas comment ça prend autant de... Mais là, ils ont essayé avec un nouveau projet de loi, il y a quelques mois, un nouveau programme. Bon, au gouvernement, c'était un programme par-dessus programme, là, puis on va voir si ça va aller vraiment rapidement, là, mais en tout cas, bon point.
Ouais. Mais on voit aussi que c'est plusieurs... que selon les groupes un peu d'un bord ou de l'autre, c'est des solutions complètement différentes.
Ben c'est ça, c'est comment tu entends la crise du logement. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il n'y en a pas? Tu vois, ça me fait penser que je serais curieux de regarder au niveau des associations de propriétaires qui disaient il y a à peine quelques mois qu'il n'y avait pas de crise du logement avant que la ministre, avant que le gouvernement Legault le reconnaisse. Ben peut-être qu'ils ont changé d'avis depuis. Avant, c'était vraiment juste les associations de propriétaires puis la ministre, le gouvernement qui ne reconnaissait pas la crise, mais les oppositions, les assos de locataires, à peu près un grand pan de la population reconnaissait qu'il y avait une crise. Je serais curieux de regarder. Peut-être qu'ils ont changé d'avis.
Justement, ça nous amène à la prochaine question. Selon toi, comment penses-tu que la situation va évoluer?
Et boy!
La situation actuelle.
C'est difficile d'être... tu sais, je vais répondre un peu une réponse de politicien.
Oui, vas-y.
Difficile de lire l'avenir.
Oui. T'as pas de boule de cristal.
J'ai pas de boule de cristal. Non, mais... puis même plus sérieusement, c'est difficile d'être optimiste, tu sais, quand on regarde la situation actuelle. Mm-hmm. S'il y a pas... honnêtement, il y a un manque de logement, c'est indéniable. Donc, s'il n'y a pas construction de logements, une construction massive, hey, on est le pays du G7 qui a le moins de logements, en fait. C'est fou, là. C'est comme 400 logements par 1000 habitants. Ça, ce n'est pas grand-chose au monde, là. Mais en tout cas, c'est vraiment pas beaucoup de logements.
Ouais, c'est une donnée intéressante, par exemple.
Que c'est environ 440, j'avais lu au Canada, puis en France, c'est 540, c'est, mettons, par comparatif.
Quand même.
Puis il y avait un manque à combler, là, ça monte dans les centaines de milliers de logements partout au Canada. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est indéniable, il y a un manque de logements partout. Tu sais, veux pas, si on suit la logique économique, c'est toujours que quand il y a une énorme demande, ben, si tu veux combler, il faut que tu aies une offre. Puis il n'y a pas d'offre. Mais c'est ça. Honnêtement, c'est parce que je vois la crise se détériorer d'année en année. Quand j'ai commencé là-dessus, c'était tellement marginal. Tu sais, c'était pas mal juste les comités logements en 2019 qui en parlaient. Tu sais. Mm-hmm. Puis là, tu voyais le monde, il n'y en a pas. Tu sais. Puis eux, ils sonnaient l'alarme, disaient, écoutez, regardez ce qui se passe à Toronto, regardez ce qui se passe à Vancouver. Tu sais, c'est mm-hmm. encore bien pire là-bas. Tu sais. Mais est-ce qu'on veut ressembler à Vancouver et à Toronto, justement?
Je pense pas, non.
Tu sais, ouais. Tu vois des fois des hypothèques, c'est aussi un problème d'achat de première propriété. Les jeunes ne peuvent juste plus acheter. Tu sais.
Ouais.
Puis c'est un effet boule de neige, là, en fait. C'est que si, mettons, quelqu'un qui gagnait, puis j'ai fait un article justement là-dessus, avant, en les années 80, ça coûtait, je pense que tu pouvais, attends une minute, les propriétés, c'était comme 4 fois notre salaire environ. Mm-hmm,
ouais.
Puis aujourd'hui, c'est 10 fois notre salaire. Ouais. Fait que c'est quand même assez important. Là,
comme tu dis, ça fait boule de neige parce que le monde achète moins, reste sur le marché locatif. Donc ça,
moi, quand je parle de ça, mes parents, ils sont comme ouais, mais on gagnait juste 6$ de l'heure dans le temps. Ouais, mais... En tout cas.
Mais oui, c'est fou. Moi aussi, j'entends les mêmes discours là, de dire ah, le taux d'intérêt à l'époque était très, très, très élevé. Là, mettons, ouais, je pense mm-hmm. que tu du 10-15%. Fait que mettons, ta maison qui valait moins, ben, t'as payé vraiment sur une plus longue période. Là, les taux d'intérêt sont bas. Mais t'es en train de remonter, là, son rire. C'est parce qu'à un moment donné, les taux d'intérêt peuvent pas aller à moins 5, tu sais.
Ouais.
Fait que si maintenant, là, il était vraiment bas, là, c'était comme 0,5, 1%, moindrement que ça monte à 2, 3, 4, 5, 6.
Ça commence
6,
à faire mal.
Ben, bonne chance. Là, c'est, en fait, il n'y a pas de chemin inverse. Là,
mm-hmm.
Mais en tout cas, réponse courte, je suis pas très optimiste. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis bonne chance à tous, mais tu sais.
Ouais.
On va tous mourir. Bonne chance.
C'est ça, c'est full. Full. Catastrophe, scénario catastrophe, mais.
Ouais.
Non, là, je pense que, bon, faut rester optimiste, là, puis on va voir comment ça va se dérouler dans
mais
les.
Mais c'est que des solutions sont possibles.
Les solutions sont possibles.
Faut juste les
mettre. Faut
mais
les
c'est ça. Puis c'est pas ça nécessairement qui arrive en ce moment. Guillaume, en terminant, si les gens veulent te suivre, comment ils te suivent?
Il peut me suivre juste à taper le 24 heures, aller sur le site internet du 24 heures. Puis sinon, ils peuvent me retrouver sur Twitter, Guillaume Cyr. Ils peuvent aussi, s'ils veulent m'écrire, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour des sujets, des histoires de logement. Ou mm-hmm. c'est Guillaume, ben, mon prénom, nom de famille, Guillaume.cyr, en commercial, québécoismedia.com, québécoismedia en un mot.
Ouais. On va mettre le lien sous, sous la bio.
Cool. Fait que c'est souvent par cette voie-là.
Guillaume Cyr, merci beaucoup d'être venu. C'est très intéressant.
Oui.
Moi, c'est moi qui. Ça m'a fait un grand plaisir d'être ici. Ouais. Puis on va se retrouver, en tout cas, avec Paul sur un terrain de hockey-ball.
Oui.
Sous peu. Ben, en fait,
dans 6 jours, on reprend notre saison. Mais oui, c'est ça.
Mais quand cet épisode-là va jouer, on va avoir déjà eu une victoire ou une défaite.
Une victoire ou une défaite.
Espérons-le.
Merci, Guillaume.
Pour le cristal.